Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, une solution à la pénurie de logements. Affronter les sentiers en Joëlette. Pourquoi le sol absorbe-t-il mal l'eau de pluie après un incendie de forêt? Et profiter des beaux jours tout en se protégeant des tiques. Bonne écoute.
Une solution à la pénurie de logements? Un texte de Julie Chaumont, paru le 15 juin 2023 dans La Presse. Les rares appartements disponibles à la location sont offerts à des prix de fou, tout comme les condos, maisons et immeubles à revenus qui ont pris énormément de valeur ces dernières années. Dans cette folie immobilière, les coopératives d'habitation peuvent être une solution intéressante qui mériterait d'être exploitée. On compte 1300 coops d'habitation au Québec. Pour Patrick Préville, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec, FHCQ, c'est trop peu. Je pense qu'au fil du temps, si on avait permis aux coops de se développer, ce n'est pas de 1300 coops qu'on parlerait, c'est peut-être de 3000, 5000, 10 000 coops. Ardent défenseur de ce modèle d'habitation, M. Préville soutient qu'au fil du temps, les coops ont été dénaturées et contraintes à vivre en solo, sans possibilité de croître. Le directeur général de la FHCQ insiste. Les coops d'habitation, bien qu'elles offrent des logements à prix abordable, ne sont pas des logements sociaux. Les OBNL et les coops d'habitation ont deux missions totalement différentes, martèle-t-il. Habiter dans une coop, c'est prendre part à un projet communautaire, c'est s'impliquer dans son milieu de vie, c'est gérer les biens communs, c'est avoir une vision commune de partage et de qualité de vie. Les résidents ne sont pas de simples locataires. Ce sont des membres qui prennent part aux décisions, qui s'impliquent dans l'administration du bien immobilier et du vivre ensemble. Pierrette Trudel, résidente du village Côte-des-Neiges, première coopérative d'habitation à Montréal, en sait quelque chose. Habiter une coop, ça ne se résume pas à balayer un corridor ou donner une couple d'heures par semaine, affirme celle qui a investi de nombreuses heures en tant que membre et, pendant de nombreuses années, en tant qu'administratrice. Parce que le concept est mal compris, les programmes de développement qui ont été mis sur pied au fil des ans par la Société d'habitation du Québec, SHQ, ont dénaturé le modèle des coopératives d'habitation et bafoué certaines valeurs de base, dont la mixité sociale. Dans les conventions d'exploitation, c'est écrit noir sur blanc que la coop doit être attribuée à un ménage à faible revenu ou à revenu modeste. C'est vraiment une contrainte importante en ce qui concerne qui peut habiter dans une coop, souligne Patrick Préville, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Pierrette Trudel renchérit. Dans les années 1970, quand ils ont offert aux coopératives des subventions pour accepter des gens qui avaient des difficultés financières et parfois sociales, il y a eu comme une espèce de mouvement où le point 1 des coopératives, ce n'était pas la participation, former une mini-société. mais c'est devenu accueillir des gens en difficulté, ce qui fait qu'on a perdu notre identité de base, en partie. Se réinventer pour perdurer. Bien que le financement se fasse attendre, Sandra Turgeon, directrice générale de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, CQCH, affirme qu'une bonne dizaine de projets de coopératives d'habitation sont dans le collimateur, en plus des projets de coopératives de propriétaires, un modèle qui donne accès à la propriété. Ce qui rend son unité abordable, c'est que le fonds de terrain appartient à la CQCH et son mouvement. On retire du prix de chacune des unités 25 % de la valeur pour s'assurer de rester en bas du prix courant. C'est nouveau, explique-t-elle. On s'est engagé pour en livrer 1000 unités d'ici 5 ans. En ce moment, il y a 3 projets qui sont en cours de réalisation, dit Sandra Turgeon. Si le nombre de coopératives d'habitation est stable au Québec, des initiatives comme les coopératives de propriétaires devraient permettre une certaine croissance dans les prochaines années. C'était une solution à la pénurie de logements? Un texte de Julie Chaumont, paru le 15 juin 2023 dans La Presse. Affronter les sentiers en Joëlette. Un texte de Marie Tison, paru le 12 juin 2023 dans La Presse. La randonnée commence de façon très pépère, le long du lac au Castor, sur le Mont-Royal. Ça se corse après le belvédère Kondiaronk lorsque les randonneurs empruntent un sentier pierreux qui descend abruptement dans la forêt. Une petite poussée ici, un coup de frein là. Des accompagnateurs enthousiastes permettent à des personnes en situation de handicap de quitter les grands chemins et d'explorer de petits sentiers accidentés menant à de discrets belvédères. La clé, c'est la Joëlette, un fauteuil tout-terrain à une roue qui peut manœuvrer sur les roches et sur les racines et affronter des pentes assez prononcées. Il suffit d'avoir recours à au moins 2 accompagnateurs, un en avant, un en arrière, qui ont un niveau de forme approprié pour le défi. Nul besoin d'être un super-héros. Des accompagnateurs enthousiastes, il y en a plusieurs lors d'une randonnée inclusive organisée récemment sur le Mont-Royal par Rando-Québec, en collaboration avec Bivouac et Def-Fils sans limite. La randonnée inclusive, c'est super important pour nous, surtout depuis que la Joëlette est distribuée au Québec, lance Grégory Flayol, directeur général adjoint et responsable des programmes chez Rando-Québec. L'objectif de cette activité, c'est de montrer aux gens que ça existe, que la randonnée est accessible aux personnes en situation de handicap. Dans quelques parcs, on a travaillé fort pour rendre certains sentiers de randonnée accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est une initiative très appréciée, mais elle est coûteuse et il reste des centaines de kilomètres de sentiers qui ne peuvent être transformés, et ce, pour une variété de raisons. Mais ça ne veut pas dire que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas s'aventurer sur les sentiers plus délicats. Avec la Joëlette, la question n'est pas de savoir si le sentier est bon, mais si l'équipe est bonne, lance M. Flayol. Commentaires élogieux. Marie-Hélène Tanguay, coordonnatrice de projet chez Deaf Fils Sans Limites et elle-même en situation de handicap, apprécie visiblement la randonnée à bord de la Joëlette. C'est confortable, il n'y a pas trop de gros coups, indique-t-elle. Nous sommes plus haut que sur un fauteuil conventionnel. Ça donne une nouvelle perspective sur la nature, tout en étant bien accompagnée. Megan Savary, étudiante, apprécie particulièrement le passage dans les sentiers étroits au cœur des bois. « C'est comme si on n'avait pas de handicap », affirme-t-elle. « C'est vraiment hot. J'ai deux bons chauffeurs. » Ce que le directeur de Kéroul, Bruno Ronfort, apprécie particulièrement, c'est que ce type de sortie ne cloisonne pas les gens. Les personnes en situation de handicap d'un côté, les autres personnes de l'autre côté. Tous doivent collaborer. L'inclusion, c'est que tout le monde se retrouve dans la même société. C'est ainsi que quelques personnes qui ont une déficience visuelle se joignent à la randonnée avec l'aide de l'organisme Le Bon Pilote, qui offre des services d'accompagnement. De leur côté, Vincent Roy et Chloé Brosseau ont eu vent de l'activité par les réseaux sociaux et décident de venir faire un tour. Ils font partie d'une petite organisation, les Courses partagées de Montréal, qui anime des sorties de courses en duo, coureurs et co-coureurs, grâce à des fauteuils adaptés. Son slogan? Contrer l'isolement social, une course à la fois. Pour sa part, la coopérative de solidarité Bivouac organise des activités et des séjours de plein air avec des joëlettes et des kayaks adaptés. Ça fait 2 ans qu'on existe. On veut créer une communauté de plein air inclusive au Québec, déclare Dominique Viennot, cofondateur de la coopérative. Le truc à Joël. La Joëlette a été conçue par un guide accompagnateur français, Joël Claudel. Elle est toujours fabriquée en France. Avec le transport, elle coûte un peu plus de 7 000 $, note Gilles Rour de Zéro Limite, qui distribue la Joëlette au Canada. On en vend parfois à des individus, mais surtout à des organismes à but non lucratif, des municipalités ou des parcs régionaux. On en trouve notamment au parc de Portneuf, des trois monts de Coleraine, de Sutton ou encore du mont Ham. Mais pas dans les parcs de la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Je leur ai proposé, mais ils préfèrent d'autres types d'équipements, indique M. Rour. La CEPAC offre plutôt des fauteuils adaptés qui peuvent parcourir les sentiers aménagés, mais pas les sentiers plus accidentés qui sont accessibles aux adeptes de la Joëlette. C'était « Affronter les sentiers en Joëlette », un texte de Marie Tison, paru le 12 juin 2023 dans La Presse. Pourquoi le sol absorbe-t-il mal l'eau de pluie après un incendie de forêt? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Pourquoi, après un incendie de forêt, le sol n'arrive plus à absorber l'eau malgré des précipitations abondantes? Demande François Rodrigue, lecteur de La Presse. Parce qu'en brûlant, les feuilles peuvent perdre leur cire, puis créer une couche imperméable sur le sol. La combustion des feuilles et des feuilles en décomposition sur le sol peut, dans certaines conditions, produire des composés hydrophobes qui repoussent l'eau. Explique Jorge Mataix Solera de l'Université Miguel Hernández à Alicante, en Espagne, qui a publié plusieurs études sur le sujet. Si l'eau ne pénètre pas les sols, la repousse de la végétation peut être retardée, ce qui pose des problèmes d'érosion, particulièrement dans les régions en pente, comme les montagnes. L'eau peut également dévaler une pente, même faible, vers des cours d'eau, au lieu de pénétrer dans le sol. Cela peut causer des inondations à cause du débit plus important de ces cours d'eau lors de pluies importantes. L'absence de végétation après un incendie de forêt peut aussi accentuer les inondations, comme on l'a vu en Australie en 2020-2021 et en Colombie-Britannique après les incendies de forêt en 2021. Souligne Sylvain Jutras, spécialiste d'hydrologie forestière à l'Université Laval. Et ça amène beaucoup de sédiments dans les cours d'eau, ce qui peut nuire aux écosystèmes et aux poissons. La formation de ces composés dépend notamment de la température. Une formation maximale survient vers 200 à 250 degrés Celsius. Selon M. Mataix Solera, qui a publié l'an dernier dans la revue Science of the Total Environment une analyse moléculaire de ces composés hydrophobes. Dans certains cas, comme pour les pinèdes avec des sols sablonneux, la production de ces composés est particulièrement importante. Les premières études sur le sujet ont eu lieu dans les années 1970 en Californie. La recherche a vraiment décollé avec l'augmentation du nombre d'incendies en Méditerranée et dans l'Ouest américain au milieu des années 1990, dit M. Mataix Solera. Ça a donné une vague de publications depuis l'an 2000. La recherche a permis de mieux caractériser le degré d'imperméabilisation des sols. À un centre de recherche du département américain de l'agriculture en Idaho, USDA, Peter Robichaud a mis au point un appareil pour mieux prédire l'imperméabilisation après un incendie de forêt. Avant, on calculait le temps que mettait une goutte d'eau pour traverser la surface du sol, explique-t-il. C'est une information utile pour la prédiction des inondations. Par exemple, des autorités pourraient décider d'élargir un ponceau sous une route. Selon M. Jutras, la formation d'une telle couche hydrophobe pourrait se produire sur la côte nord, où il pourrait y avoir des inondations dans les années à venir pour cette raison. Des travaux ont aussi été menés dans la lutte contre cette hydrophobie post-incendie. Dans certains cas, du paillis peut aider, dit M. Robichaud. On utilise du paillis d'hydro-ensemencement qu'on répand par épandage à partir d'un camion ou par hélicoptère. Il y a aussi des recherches sur la dégradation microbienne de la couche hydrophobe, mais c'est plus embryonnaire. C'était « Pourquoi le sol absorbe-t-il mal l'eau de pluie après un incendie de forêt? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Profiter des beaux jours en se protégeant des tiques. Un texte de Marie Tison, paru le 3 juin 2023 dans La Presse. Avec le retour des beaux jours viennent les rayons plus chauds et les fleurs sauvages, mais aussi des tiques porteuses de la maladie de Lyme. C'est d'ailleurs dans les prochaines semaines qu'il faudra se méfier le plus de ces vilaines bestioles. Les tiques commencent à bouger très tôt. Elles sont très actives au printemps et au début de l'été. Indique Jade Savage, professeure de biologie à l'Université Bishops. Elle n'aime pas la grosse chaleur et la sécheresse. C'est pour cela que c'est plus tranquille pendant les mois très chauds, très secs de l'été. Ça recommence à l'automne. Il faut être particulièrement vigilant au printemps parce qu'on trouve alors énormément de tiques au stade de nymphe, soit un stade intermédiaire entre la larve et la tique adulte. La nymphe est beaucoup plus petite que la tique adulte, tellement petite que c'est possible qu'elle soit attachée depuis 24 heures et qu'on l'ait manquée, souligne Mme Savage. Le risque de transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme survient essentiellement après 24 heures d'attachement. La grande coupable, c'est la tique à pattes noires. Depuis quelques années, son territoire s'étend. D'abord limitée aux États-Unis, elle a progressé vers l'Estrie et la Montérégie. On en retrouve maintenant plus au nord, jusqu'à Québec. Le bon côté, c'est que les gens sont plus conscientisés, plus vigilants. Ils sont plus nombreux à adopter des mesures de protection, observe la professeure. La meilleure protection, c'est de ne pas lui offrir un accès à notre peau, soit une barrière physique, dit Jade Savage, professeure de biologie à l'Université Bishops, à propos de la tique. Il s'agit donc de porter des manches longues et d'entrer les bas de pantalon dans les chaussettes. C'est évidemment moins tentant en plein été lorsqu'il fait chaud. On peut alors utiliser des répulsifs comme le DEET à 20% ou l'icaridine. Le DEET étant potentiellement neurotoxique, on ne le recommande pas pour les enfants, indique la docteure Mirabelle Kelly, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l'Estrie. L'Association canadienne de pédiatrie recommande plutôt l'icaridine à 10%. Il existe des vêtements imprégnés d'un répulsif, la permétrine, qui sont également efficaces. L'important, c'est surtout de se surveiller après une activité et de prendre une douche pour que la tique, si elle n'est pas encore attachée, tombe avec l'eau, indique la docteure Kelly. Depuis de nombreuses années, les médecins prescrivent des antibiotiques comme la doxycycline et l'amoxicilline pour traiter la maladie de Lyme une fois qu'elle s'est installée. Ce qui est différent, c'est que depuis à peu près 5 ans, on a une prophylaxie secondaire. On utilise la doxycycline en prévention à la suite d'une morsure, affirme la docteure Kelly. Il y a 4 critères à respecter. Il faut que la tête soit accrochée depuis plus de 24 heures, qu'on ait une preuve relativement crédible que c'était bien une tique, qu'on aille chercher le traitement dans les 3 jours suivant le retrait de la tique, et qu'on soit dans une région où la prévalence de la maladie est suffisante pour justifier l'utilisation de la prévention. Il y a un autre élément nouveau. Pfizer et Valneva ont entrepris des essais cliniques sur un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme afin de tester son efficacité et sa sécurité. Un vaccin avait été mis sur le marché dans les années 1980-1990, Limerix, note la docteure Kelly. Au début des années 2000, il y a eu un recours collectif organisé par des patients vaccinés qui avaient des douleurs articulaires. Les études n'ont pas démontré que c'était nécessairement le vaccin qui était responsable. Il n'y avait pas plus de cas de douleurs articulaires chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Mais ça a nuit à la commercialisation du vaccin. La compagnie a juste décidé d'abandonner la mise en marché. Le Québec pourrait participer aux études sur le nouveau vaccin. On a été approché pour participer, mais on est encore en cours d'approbation, indique la Dr Kelly. Si ça fonctionne, on commencerait les études cet été à Granby, à Sherbrooke et à Montréal. En attendant ce vaccin, les gens devraient apprendre à identifier et à retirer les tiques correctement. Il faut que ça devienne une aptitude collective, retirer une tique, sans être obligé de demander à un professionnel de la santé. C'était profiter des beaux jours en se protégeant des tiques. Un texte de Marie Tison, paru le 3 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.